Europe Midi. Thierry Dagiral.
Bonjour à tous, bienvenue, il est midi et demi.
Ça fait plaisir. On peut vraiment de nouveau avoir une visite culturelle normale. On peut vraiment pleinement vivre la visite.
Plus de masques, mais un pass, c'est la nouveauté du jour. Un pass sanitaire obligatoire dans les musées, cinémas, théâtres, tous les lieux recevant du public au-delà de 50 personnes. Maximilien Carlier est au musée du Louvre à Lens. Nous irons dans les Pyrénées-Orientales où le taux de circulation du virus a littéralement explosé. Plusieurs départements sont concernés. Le gouvernement parle de quatrième vague et a convoqué ce matin un nouveau conseil de défense sanitaire. Retour sur le scandale Pegasus, le Maroc qui aurait écouté le président français, mais également plusieurs ministres. Et maintenant, quelles peuvent être les réponses diplomatiques? L'invité d'Europe Midi, l'un des ministres écoutés, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il est donc obligatoire depuis ce matin ce fameux pass sanitaire. Il est exigé à l'entrée des lieux recevant du public dès que la jauge excède 50%. 50 personnes, pardonnez-moi. Direction le musée du Louvre de Lens. Maximilien Carlier, vous êtes sur place avec le pass sanitaire. Donc, il y a moins de masques sur les visages.
Oui, tout à fait Thierry. Ici, dans la galerie du temps, les masques dépassent des poches des visiteurs et on voit des sourires, notamment ceux de Josie, Michel et Cédric.
Ça fait plaisir. On peut vraiment de nouveau avoir une visite culturelle normale, sans être gêné au niveau respiration, au niveau, on peut vraiment pleinement vivre la visite.
On peut se parler, on a quand même une liberté totale en fait.
Ça vaut le coup d'être vacciné.
Ça vaut le coup d'être vacciné.
Alors bien sûr, tout le monde ne tombe pas le masque. Environ 3/4 des personnes le gardent. Question d'habitude pour Hervé.
Quand je travaille, je l'ai toute la journée, donc moi ça ne me coûte rien. Franchement, à l'intérieur, on joue la sécurité.
La sécurité, justement, à l'entrée, les portiques. La nouveauté, c'est le pass sanitaire. Gauthier Verbeek, en charge de la médiation au Louvre-Lens.
On s'est demandé comment réagirait le public face à la mise en place du pass sanitaire. Et effectivement, en tout cas pour l'instant et dans ces premières heures, on se rend compte que le public est là tout de même. Donc ça nous fait très plaisir.
Pas de baisse en termes de fréquentation. Environ 150 visiteurs ce matin et pour l'instant, aucun refus.
Maximilien Carlier, correspondant Europe 1 dans les Hauts-de-France. Maud Descamps du service économie. On fait le point avec vous concrètement. Où dois-je présenter mon pass à partir d'aujourd'hui?
Eh bien, dans tous les lieux de culture et de loisirs qui accueillent plus de 50 personnes. Autrement dit, au musée, au cinéma, dans votre salle de sport, même chose au théâtre ou encore dans les festivals comme celui d'Avignon, par exemple.
Et Maud, une fois à l'intérieur, on a le droit d'enlever le masque, hein?
Normalement, oui. Dans les lieux soumis au pass sanitaire, l'obligation de porter le masque n'existe plus. Mais les préfets ont la liberté d'en décider autrement et de demander aux usagers de garder le masque, même s'ils ont présenté leur pass sanitaire. Cela dépendra en fait de la situation épidémique dans le département concerné, puis aussi de la capacité du lieu qui accueille le public à contrôler de manière efficace le pass sanitaire de chacun. Sachez aussi que l'exploitant ou l'organisateur d'un événement a également la possibilité d'exiger le port du masque. En revanche, les salariés qui travaillent dans les endroits qui sont soumis au pass sanitaire, eux devront garder le masque pour l'instant.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Le gouvernement parle clairement aujourd'hui de quatrième vague avec 18 000 contaminations en plus hier contre moins de 7 000 la semaine dernière. Le masque en extérieur fait son retour dans les zones touristiques notamment où l'épidémie repart. Dans les Pyrénées-Orientales, département qui reste le plus touché, la situation est toujours préoccupante, Henri de la Guérie.
Effectivement, et les chiffres sont vertigineux. 2000 cas sont détectés chaque jour dans le département. Le taux d'incidence s'élève à 373 cas pour 100 000 habitants. C'est 4 fois plus que dans le reste de la France. Ce n'est plus une courbe qui grimpe, mais bien un mur, explique le docteur Sylvain Pavageot. Il dirige l'un des centres de vaccination à Perpignan.
Sur les chiffres chaque jour, c'est assez impressionnant. L'augmentée de l'incidence, c'est un vrai mur, oui. Un vrai mur qu'on n'avait pas connu. Nos collègues hospitaliers se préparent à voir arriver dans quelques jours ces patients, même sans facteur de risque, mais c'est le nombre qui fait qu'il y aura des hospitalisations quoi qu'il arrive.
Ces hospitalisations devraient grimper donc d'ici une dizaine de jours. Les moins de 30 ans sont 4 fois plus touchés ici que le reste de la population, même si la courbe remonte aussi chez les plus de 65 ans. Mais bientôt, les Pyrénées-Orientales ne seront plus une exception. Le virus progresse au nord et à l'ouest du département.
Malheureusement, nos collègues des départements limitrophes et bientôt toute l'Occitanie au-delà auront des chiffres qui risquent de se rapprocher des nôtres, malheureusement. Hein.
Voilà Thierry, mais pour trouver un petit signe d'espoir, il faut regarder vers le sud. De l'autre côté de la frontière, la Catalogne voisine a une dizaine de jours d'avance sur le sud de la France. Et là-bas, le pic de la contagion a été atteint. L'épidémie commence tout juste à ralentir.
Merci Henri de la Guérie à Perpignan pour Europe 1. C'est dans ce contexte et avant une prise de parole du Premier ministre à 13h que s'est tenu ce matin à l'Élysée un nouveau conseil de défense sanitaire, Hélène Terzian. Qu'en est-il ressorti ?
Eh bien, ce que l'on sait, c'est que trois sujets étaient à l'ordre du jour. D'abord, la campagne de vaccination. Ensuite, le déploiement du pass sanitaire qui entre en vigueur aujourd'hui dans les cinémas, les musées. Mais aussi, la question de restrictions supplémentaires. Le gouvernement veut tout faire pour anticiper et éviter une nouvelle flambée de l'épidémie. On regarde avec pragmatisme les chiffres. On surveille attentivement les courbes, la pression sur les hôpitaux. Et on voit comment on proportionne, martèle-t-on dans l'entourage du président. Avec l'explosion des cas ces derniers jours, l'exécutif pourrait donc recourir à plusieurs outils, notamment à l'échelle locale. Sur la table, la fermeture anticipée des établissements, bars, restaurants, le retour du port du masque obligatoire en extérieur, voire la réinstauration d'un couvre-feu, comme cela a été décidé dans les Pyrénées-Orientales. Bref, rien n'est exclu, d'autant que le président avait prévenu il y a 10 jours que de nouvelles restrictions pouvaient être envisagées dans les territoires où l'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Ces arbitrages, le Premier ministre devrait les annoncer d'ici une demi-heure, accompagné très certainement de ce message martelé au plus haut sommet de l'État. Notre arme contre le virus, c'est la vaccination.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Et puis parallèlement, les débats se poursuivent, hein, vous le savez, à l'Assemblée nationale autour du projet de loi étendant le pass sanitaire. Hier, la commission des lois a voté en faveur du report à la fin septembre du pass sanitaire pour les 12-17 ans.
Europe 1, Thierry Dagiral.
12h37, les suites des révélations du scandale Pegasus, logiciel qui a permis d'écouter plusieurs personnalités, dont Emmanuel Macron et plusieurs ministres. Ce matin, sur Europe 1, Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement intérieur français, relativisait le fait que le Maroc soit à l'origine de cette affaire. Il estime que le Maroc est peut-être accusé à tort.
Tout est possible, tout est possible. Et le silence de l'Élysée est en conformité avec l'attente des résultats, comme l'a dit le Premier ministre, des orientations d'enquête.
Quelle réponse diplomatique, une fois qu'on aura ces résultats, attendez-vous ?
Oh, ben comme d'habitude.
C'est-à-dire des protestations et puis pas grand-chose ?
Rappelez-vous quand Wikileaks se révèle que les présidents de la République ont été écoutés par la NSA, ça a été un silence diplomatique très profond. Mais
pourquoi ? Parce qu'on fait la même chose ?
Possible. Mais il est évident qu'entre quatre yeux, ensuite, les présidents se parlent.
Bernard Squarcini, l'invité de la matinale de Théo Manval ce matin sur Europe 1. Alors justement, Jean-Sébastien Soldaini, quelles peuvent être les conséquences diplomatiques de cette nouvelle affaire ?
Eh bien, si vous regardez les exemples récents, même type d'espionnage sur des chefs d'État, pas de vraies conséquences. Entre 2006 et 2012, les États-Unis ont écouté trois présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les antennes qui servaient à ces écoutes étaient posées à deux pas de la place de la Concorde et du palais de l'Élysée. Mais au-delà de la posture d'indignation sur le moment, il n'y a pas eu de brouille à long terme. Autre exemple, les services britanniques ont écouté toutes les délégations lors d'un G20 en 2009 et les G20 continuent, les chefs d'État se tapent toujours dans la main. Plus récemment, nous avons découvert que la NSA a écouté Angela Merkel. La chancelière était ravie d'être reçue ces derniers jours à la Maison-Blanche. Alors c'est vrai, c'est difficile de montrer les muscles face à Washington ou face aux Anglais, il y a trop d'enjeux en commun. Le ton sera peut-être un peu plus sévère vis-à-vis du Maroc, mais sans aucun doute, les relations vont très vite se normaliser.
Jean-Sébastien Soldaini, grand reporter de la rédaction d'Europe 1. Retenez en bref que les élections municipales à Cholet ont été annulées par le Conseil d'État et que l'UNESCO retire le port de Liverpool de la liste du patrimoine mondial. Les images sont impressionnantes. Elles nous viennent de Chine, des passagers bloqués, piégés dans le métro de Zhangzhou, des barrages qui ont cédé, des pluies torrentielles et inhabituelles qui s'abattent sur le pays. Bilan provisoire, 18 morts. Sébastien Lebelzig, vous êtes notre correspondant sur place. L'armée a été appelée en renfort.
Oui, ce sont plus de 3000 militaires au total qui ont été déployés sur zone pour assurer l'évacuation d'au moins 200 000 personnes. D'autres renforts sont attendus dans la journée car la situation sur place dans cette province du Henan, qui compte 100 millions d'habitants, reste particulièrement inquiétante, notamment le risque de voir le barrage sur le fleuve jaune céder sous la pression des eaux. Une brèche de 20 mètres a été détectée, c'est donc la panique. Et dans la ville de Jiangzhou, la préfecture de cette province, la pluie continue de tomber, les rues sont inondées, l'électricité toujours coupée. Un hôpital de 7000 lits notamment est privé d'électricité. C'est l'équivalent de 6 mois de précipitation qui s'est abattue sur la ville en à peine une heure. Les images du métro inondé ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit des passagers coincés dans les rames avec de l'eau jusqu'aux épaules. On voit des corps aussi allongés à même le sol, le visage recouvert d'un drap. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Le président chinois Xi Jinping parle d'une situation très difficile pour les sauveteurs sur place.
Sébastien Lebelzik en Chine pour Europe 1. On termine avec les JO de Tokyo, J-2 avant la cérémonie d'ouverture. Mais Julien Froment, la première épreuve sportive a commencé avec le softball à Fukushima.
Exactement, c'est la version féminine du baseball. Donc vous l'avez dit, à Fukushima, un lieu hautement symbolique puisque la région avait été ravagée par un accident nucléaire il y a déjà 10 ans. Eh bien, les Japonais l'ont facilement emporté face aux Australiennes, une victoire dans un silence pesant, hélas, puisqu'on le rappelle, toutes les épreuves se déroulent à huis clos. C'est également le cas du tournoi de football qui se dispute dans des tribunes vides. Et première sensation de ces Jeux, puisque la Suède a battu les États-Unis portant 4 fois championne olympique. Un peu plus tôt dans la matinée, les Britanniques ont disposé des Chiliennes 2-0 et puis les Brésiliennes ont atomisé les Chinoises 5-0.
Et puis Julien, pour certains athlètes, les Jeux en revanche ne vont jamais débuter.
Oui, hélas, deux athlètes n'auront pas le bon d'y participer malgré leur présence à Tokyo. Une taekwondoïste chilienne et une skateuse néerlandaise ont été contrôlées positives au Covid-19. Elles doivent observer une période d'isolement de 10 jours. Résultat, elles sont contraintes de déclarer forfait. Depuis le 1er juillet, ce sont 79 personnes, dont 8 athlètes, qui ont été testées positives sur plus de 20 000 personnes contrôlées.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Il nous reste à présent à voir le temps, c'est important en ce moment. Marlène Duré, c'est du beau temps.
Oui, Thierry, bonjour. Comme ces derniers jours, la grisaille matinale en Aquitaine et dans le Midi-Pyrénées va continuer à se morceler. On va conserver quelques stratus côtiers l'après-midi. Les stratus, vous savez, ce sont ces nuages bas qui donnent cette impression assez grise. Donc le ciel peut rester gris par endroits, très localement sur le littoral aquitain. Sur les Pyrénées, l'ensemble du relief montagneux en général, on prévoit une petite averse cet après-midi. Averse potentiellement orageuse dans le sud des Alpes et la montagne Corse. Ailleurs, le temps, vous le disiez, va rester très ensoleillé avec une cumulification plutôt discrète pouvant donner quelques gouttes. Alors, des gros cumulus, vous savez, de beau temps. Et quelques gouttes sont possibles vers le nord Pas-de-Calais, notamment du côté de l'Artois. Et on s'arrêtera là, au niveau de la nébulosité. Les températures prévues au meilleur de la journée, 25 à Biarritz, 26 au Havre, 27 degrés à Cherbourg, à Lille, à Strasbourg également, 27 degrés du côté de Nice. Nous aurons 28 à Clermont-Ferrand, 29 à Dijon, 30 à Paris et à Bourges, 31 à Brest. Ça nous fera quand même 3 jours consécutifs à plus de 30 degrés à Brest. On n'a pas vu ça depuis 1990. C'était au début août, de mémoire.
Mémoire.
32 dans le Limousin et en Haute-Corse, 34 à Toulouse et Montpellier, 36 à Nîmes. Donc demain, dernière journée de beau temps avant la dégradation orageuse.
Week-end mauvais.
Elle est confirmée, cette dégradation, oui. Samedi déjà, on a les orages. D'accord. Qui vont traverser le pays. Et puis dimanche, ce sera ce qu'on appelle une traîne, donc un ciel assez changeant, variable, entre nuages et éclaircies, avec parfois quelques averses et surtout les températures qui vont baisser forcément après le passage des orages.
Allez, revenez quand même dans le journal de 13h. À tout à l'heure. Merci.
Tout à l'heure.